L'écho d'ici, l'écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. L'Amérique latine est en ébullition, vous en avez certainement entendu parler. Au Chili, de puissantes manifestations ont obligé le président Piñera à réformer son gouvernement et à promettre une nouvelle constitution. En Bolivie, des manifestations aussi qui ont abouti à la démission du président Evo Morales, accusé de fraude lors de la récente élection présidentielle, alors que paradoxalement, les économies chiliennes et boliviennes ne sont pas les plus mal en point de la région. Le grand voisin argentin, le grand frère hispanophone, va lui beaucoup plus mal. Le mandat du président sortant, Mauricio Macri, s'est traduit par une explosion de la pauvreté. Le 10 décembre prochain, un nouveau président qui vient donc d'être élu, Alberto Fernandez, sera aux manettes. L'Argentine est en crise, une fois de plus, direz-vous, à quelle cause obéissent ces crises économiques à répétition dont l'Argentine est victime? Voilà la question centrale que je vais poser au cours de cette émission à un invité unique, Pierre Salama. Bonjour Pierre Salama.
Bonjour.
Pierre Salama, vous êtes spécialiste depuis longtemps des économies latino-américaines, professeur émérite à l'Université Paris 13 et auteur de nombreux ouvrages dont le dernier en date est « Des économies toujours émergentes ?» au sujet de l'Amérique latine. C'est publié à la Documentation française. Alors au cours de cette émission, bien sûr, de nombreux reportages de nos correspondants et envoyés spéciaux sur place en Argentine, Aude Villiers-Moriamé, Pauline Glaise, Été aux consciences, également une plongée dans les archives de la crise des crises argentines grâce à la documentation sonore de RFI. Je le disais, le 10 décembre prochain, l'Argentine aura un nouveau président, Alberto Fernandez. Il sera secondé par quelqu'un qui est tout sauf une inconnue, une vice-présidente, Cristina Kirchner, qui a été présidente pendant deux mandats, la veuve de Néstor Kirchner, qui lui-même a été président de l'Argentine. Ce tandem, dans quelle situation économique, Pierre Salama, va-t-il trouver l'Argentine?
Situation très difficile.
C'est un euphémisme.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une situation qui est difficile parce que la politique du président Macri a été erronée, je crois. Elle a aggravé une crise qui était déjà latente. Situation difficile aussi également parce que, comme vous l'avez précisé, l'Argentine, depuis plusieurs décennies, connaît une très grande volatilité de sa croissance, c'est-à-dire des phases de forte croissance et des phases de profonde crise économique. Donc c'est une crise structurelle, c'est pas seulement une crise conjoncturelle.
Alors on va détailler ça tout au long de l'émission, mais précisément aujourd'hui, quelle est la situation?
La situation, vous l'avez indiqué, c'est quand même 35% aujourd'hui de taux de pauvreté. C'est de la pauvreté absolue, on la mesure de manière absolue, c'est-à-dire un accroissement de la misère de manière assez prononcée. Des taux d'inflation qui sont loin des records des années 80, certes, mais qui quand même sont autour de 55-60%, ce qui est considérable. Surtout que les hausses de salaires ou de revenus sont beaucoup plus faibles. Et surtout pour ce qu'on appelle, nous, les premiers déciles, c'est-à-dire les personnes les plus pauvres, les plus vulnérables, ont des augmentations de leurs revenus très largement en deçà des salaires. Vous avez aujourd'hui aussi une dette, et ça c'est le gros problème de demain, que devra affronter le président Fernandez. Vous avez une dette qui est colossale, qui a doublé et triplé plus exactement en 3 ans du fait de la politique du président Macri. C'est quelque chose, je crois, qui est très important. Aujourd'hui, l'Argentine ne peut plus emprunter sur les marchés financiers internationaux.
En France, on est presque à 100% d'endettement par rapport au PIB, au produit intérieur brut. L'Argentine est à ce niveau-là?
Non, elle n'est pas à ce niveau-là, mais la croissance de la dette a été fulgurante. Et ça, je crois que c'est très important. C'est la croissance de la dette et donc l'insolvabilité probable qui se mesure notamment par ce qu'on appelle des taux d'emprunt, des taux d'emprunt absolument faramineux, puisque l'amende, si je puis dire, est de à peu près 2500 points, c'est-à-dire 25 points de plus que le taux d'intérêt normal.
Et qui détient cette dette de l'Argentine?
Alors, une grande partie est le Fonds monétaire international à l'heure actuelle, puisque le Fonds monétaire international a prêté de l'argent de manière un peu particulière, mais on reviendra peut-être là-dessus.
Ouais.
Et puis c'est aussi une dette privée qui est très importante et qui est détenue par des banques, etc.
Des banques étrangères.
Des banques étrangères, la plupart
du temps. Fonds spéculatifs, des choses comme ça.
Certainement, il doit y en avoir pas mal, oui. Certainement, il doit y en avoir pas mal. Mais ça, pour l'instant, on ne sait pas très bien. C'est encore assez, malheureusement, encore assez obscur. Ça s'est passé en 3 ans. Ça s'est passé littéralement en 3 ans. Et c'est cette dette qui a permis, ou a facilité, si je puis dire, ce que nous appelons la bicyclette financière. C'est-à-dire l'argent qui vient et qui part.
C'est-à-dire, expliquez-nous ça. La bicyclette financière, c'est quoi?
La bicyclette financière, c'est une chose, c'est d'une façon très simple, on peut dire, et ça a été utilisé autant jadis par un Argentin qui s'appelait Carlos Díaz Alejandro, un grand économiste, qui consiste à dire tout simplement qu'on emprunte son propre argent. C'est-à-dire, le gouvernement n'a plus assez d'argent pour payer les importations et pour permettre les sorties de capitaux. Alors, il emprunte de l'argent. Ces sorties de capitaux se placent donc aux États-Unis, dans des banques, et on réemprunte cet argent, c'est-à-dire son propre argent. C'est ce qu'on appelle la bicyclette financière, qui est stimulée par les spéculations qu'on peut avoir sur les taux d'intérêt, qui sont très élevés en Argentine
donc,
aujourd'hui,
ouais.
Et sur les taux de change.
Donc, les capitaux argentins sortent, sont
oui.
placés sur des comptes à l'étranger,
oui.
et le gouvernement réemprunte cet argent.
Voilà, en grande partie, pas seulement, parce qu'il y a aussi une particularité en Argentine, c'est que grande partie de la population tient son argent aussi également en dollars, sous le matelas, c'est-à-dire il y a beaucoup d'argent
à la maison.
À la maison, et parfois dans des comptes dollars en Argentine.
Alors, loin de ces mouvements de bicyclette financière, il y a la pauvreté qui est une conséquence directe de la crise économique. Elle continue d'augmenter, elle augmente énormément en Argentine, elle concerne, vous l'avez dit, aujourd'hui 35% de la population. Les enfants sont les premiers concernés. 1 sur 2 vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui dans ce grand pays qu'est l'Argentine. À Mar del Plata, une grande ville située à 400 km au sud de Buenos Aires, de plus en plus de familles ont du mal à s'alimenter correctement. Écoutez ce reportage, Eco d'ici Eco d'ailleurs, signé Audvillier Moriamé.
Le quartier Malvinas Argentinas est l'un des plus pauvres de Mar del Plata. Situé dans l'ouest de la ville, ses rues en terre battue sont régulièrement inondées par la pluie. 3 fois par semaine, Karina Paz y organise un comedor, une cantine populaire pour les plus démunis.
Ça fait 4 ans que j'organise cette cantine avec d'autres femmes du quartier. Il y a beaucoup de besoins, beaucoup de pauvreté ici. C'est de plus en plus difficile, surtout ces derniers mois. Là, il y a déjà des gens en train d'attendre que je leur donne à manger. J'ai 2 nouvelles familles qui ont commencé à venir récemment.
La cantine populaire gérée par Karina dépend de Barrios de Pie, quartier debout en espagnol. Cette organisation sociale reçoit tous les mois des aides alimentaires de l'État.
Aujourd'hui, j'ai cuisiné un ragoût. Il y a des légumes, des oignons, des poivrons, des carottes, de la viande hachée, de la sauce tomate et du riz.
Maria José Medina aide régulièrement Karina à organiser la cantine populaire. Cette Argentine de 23 ans, au chômage, ne reçoit qu'une maigre allocation de l'État pour ses 2 jeunes enfants. Elle n'arrive plus à joindre les deux bouts.
J'ai besoin de travailler, mais il n'y a pas ici de travail disponible. Alors on fait ce que l'on peut. Je vends des gâteaux, mais ça ne suffit pas pour payer les couches, pour payer la nourriture. Il y a un an, on pouvait au moins se nourrir. Aujourd'hui, on fait ce que l'on peut. On va au supermarché et la farine, le sucre, tout est très cher. Honnêtement, parfois, on n'a pas de quoi manger. On boit une infusion et c'est tout.
Le cas de Maria José n'est pas isolé. À Mar del Plata, plus d'un tiers des femmes de moins de 30 ans sont au chômage. Rodrigo Hernandez, représentant régional de l'organisation Barrios de Pie, dénonce l'abandon de ces quartiers vulnérables par le gouvernement de Mauricio Macri.
Ce gouvernement a détruit le pouvoir d'achat des gens et il a aggravé l'inflation. Mar del Plata est particulièrement affectée par ce modèle économique. Il y a de plus en plus de familles comme celles que l'on vient de voir qui ont faim.
Rodrigo Hernandez espère que l'arrivée au pouvoir le mois prochain du péroniste Alberto Fernandez permette un changement de cap en matière économique. Le prochain président argentin va cependant hériter d'une situation économique catastrophique qui lui laissera bien peu de marge de manœuvre. L'Argentine devrait terminer 2019 avec une inflation de 57% et une contraction de 3% du PIB.
Un reportage signé donc Audvillier et Moriamé à Mar del Plata, au sud de Buenos Aires. Pierre Salama, cette politique de Macri, comment la définiriez-vous? Qu'est-ce qu'il a tenté de faire? Parce qu'on imagine que cet homme n'est pas animé de mauvaises intentions, que son objectif n'était pas de plonger le pays dans l'endettement et dans la misère.
Son objectif, quand il est arrivé au pouvoir, il a procédé d'abord à une profonde dévaluation et à la suppression de toute une série de subventions. Son objectif clair, énoncé était de supprimer la pauvreté. C'est, n'oubliez pas, c'est une pauvreté absolue, dans la mesure de manière absolue, c'est possible, et casser l'inflation, et même pouvoir la supprimer, c'est-à-dire avoir une inflation normale, si vous préférez. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est produit. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui est relativement fermé. Et c'est un pays dans lequel, depuis très très longtemps, on préfère spéculer plutôt qu'investir, si bien que les niveaux de productivité sont très faibles, et comparés à ceux des États-Unis, par exemple. Et donc, c'est un pays dans lequel, de plus en plus, grâce au boom du soja, on compensait les déficits de l'industrie, si je puis dire, qui se manifestaient par des importations de plus en plus massives et une désindustrialisation, par des excédents qui provenaient du soja. Le seul problème, c'est que le soja est une rente. Et ça fluctue et on n'a pas de maîtrise de cela. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu progressivement ce qu'on appelle du stop and go, c'est-à-dire en gros le retour de la contrainte externe.
Lors des dernières années.
Au début de 2018, s'ajoute aussi malheureusement une sécheresse très profonde qui a été néfaste pour le soja. Et donc pour les ventes de soja, pour les exportations de soja, donc des contraintes externes très fortes. Et donc le retour de la spéculation, la violence de la spéculation, etc.
Mais la spéculation sur quoi ?
La spéculation sur la monnaie. On spécule sur la monnaie, on sort l'argent et on espère qu'il y aura des dévaluations, de telle sorte que si on devait le ramener, on gagnerait davantage de pesos.
Mais ça fait partie de la bicyclette financière dont vous nous parliez tout à l'heure.
La bicyclette financière, c'est venu après lorsque le Fonds monétaire international est venu à la rescousse du gouvernement Macri.
Je reviens au reportage d'Audevilliers-Moriamé où elle nous expliquait, où on entendait les gens dire qu'ils ne mangeaient pas à leur faim, que parfois c'était une infusion de maté des coca par jour. C'est complètement paradoxal dans ce grand pays agricole.
Oui, c'est évident. Et c'est malheureusement exact. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous exportez des produits alimentaires et du soja, s'il y a une hausse des produits alimentaires dans les marchés financiers internationaux, ça se répercute au niveau national. Or, les pauvres consomment surtout des produits alimentaires et relativement peu de smartphones, si vous préférez. Et donc leur panier de consommation est composé surtout de consommation de produits alimentaires. Si ceux-ci ont des hausses très très fortes, et si leurs revenus ne s'accroissent pas à la même vitesse, ça signifie un appauvrissement de plus en plus manifeste.
Oui, mais on parle du soja. Les consommateurs au quotidien ne se nourrissent pas de soja.
Non, mais d'abord, le soja sert pour les animaux. Donc ça a des répercussions. Ensuite, ce pays exporte aussi d'autres produits alimentaires, heureusement. De la viande, bien sûr, du maïs, du blé, etc.
On y vient justement avec une série de reportages de Pauline Glaise, l'un des secteurs importants de cette économie argentine. Traditionnellement, on a tous en tête l'image de la Pampa, de ces vastes exploitations de soja, de différentes céréales, et puis ces grands troupeaux de bétail, cette viande dont les Argentins sont aussi friands. Écoutez ce reportage d'Écodici Éco d'ailleurs, signé donc Pauline Glaise, dans la région de Córdoba, au centre du pays, dans les milieux agricoles.
L'agriculture est le seul secteur en croissance en Argentine. Elle n'échappe pas pour autant aux effets de la crise, en termes de financement notamment, comme l'explique Gonzalo Augusto, économiste à la Bourse des céréales de Córdoba.
Les taux d'intérêt sont élevés, mais cela ne veut pas dire que les agriculteurs ont moins semé. Seulement, ils ont utilisé moins de moyens techniques pour leur culture. Par exemple, ça peut aller jusqu'à une utilisation moindre de fertilisants en raison du coût élevé du financement.
Néanmoins, et même si Alberto Fernandez a promis de dialoguer avec le secteur quelques jours avant l'élection, certains exploitants agricoles s'inquiétaient d'un retour du kirchnerisme. Andrés Aguilar Benítez, à la tête avec ses frères d'une exploitation de soja, de maïs, de bovins et de porcs, ne mâche pas ses mots.
Lors du gouvernement kirchneriste, le problème, ce n'était pas seulement les taxes, mais c'est aussi qu'on nous a fermé les portes du monde. Il y a eu des limites à l'exportation, donc la production restait sur le marché intérieur. Et c'est ce qui nous fait peur parce que nous produisons des matières premières.
Ricardo Gentili est le PDG d'Alimentos Tancacha, une usine qui transforme le soja en tourteau et en huile. Il est beaucoup moins inquiet à l'idée de voir Alberto Fernandez et Cristina Kirchner à la Maison Rose.
Peu importe le gouvernement, l'agriculture est soumise aux taxes à l'exportation parce que c'est l'une des principales sources de revenus. Et ça ne va pas changer. D'ailleurs, Macri avait touché à cette fiscalité les premières années de son mandat. Et il est largement revenu en arrière par besoin d'argent. Il avait besoin de dollars. Je crois, et c'est une opinion très personnelle, qu'il faut jouer sur cette taxe pour favoriser certains produits. Une bouteille d'huile raffinée de soja, de tournesol pour la consommation humaine, devrait être bien moins taxée que de l'huile brute de soja qui a été moins transformée.
Dans cette optique, Ricardo Gentili, même s'il reste très prudent, espère qu'un accord entre le Mercosur et l'Union européenne ouvrirait l'Argentine et permettrait au pays de vendre davantage de produits à plus forte valeur ajoutée, de la viande ou du lait en poudre, par exemple. Paola Quinteros nous accueille dans une petite boutique du Movimiento Campesino de Cordoba, le mouvement paysan qui regroupe les petits agriculteurs, une part ultra minoritaire de l'agriculture argentine. Ses souhaits en matière de politique agricole ne vont pas dans le même sens.
Il nous faut des politiques qui favorisent la production, l'occupation de la terre, l'accès à la santé, à l'éducation sur notre territoire. Et peut-être aussi des politiques pour la production familiale, régionale. On veut produire et on veut une campagne avec des gens à la campagne. On ne veut pas que l'Argentine soit seulement un pays exportateur de matières premières, ce qui nous fait dépendre totalement des économies étrangères.
En septembre, les autorités de la province de Cordoba ont voté une loi pour favoriser l'agriculture rurale et familiale. Une loi au niveau national avait déjà été votée en 2014.
Pour l'Inglaise à Cordoba, Pierre Salama, on entend ces gros agriculteurs au début du reportage parler du retour du kirchnerisme. Qu'est-ce qu'ils craignent ?
Ils craignent beaucoup de choses. D'abord, une remise en question de la politique qu'avait suivi Macri, notamment du grand pardon, si je puis dire, vis-à-vis des l'agro-business. Grand pardon concernant notamment le fait qu'ils conservaient leur argent au-delà du temps, du timing nécessaire dans les capitales occidentales, l'argent des exportations.
C'est-à-dire qu'ils ne rapatriaient pas ces fonds.
Ils ne rapatriaient pas ou le rapatriaient très tard, etc. Il y a eu une sorte de grand pardon qui a fait qu'effectivement beaucoup d'argent a manqué, si je puis dire, au gouvernement. Et lorsque dans le reportage, on souligne le fait que le gouvernement, à la fin, pris à la gorge, a commencé à resserrer, disons, la vis. Ce gouvernement aussi n'avait pas tellement touché, avait abaissé les retentions, ce qu'on appelle les taxes, si vous voulez, sur les grands produits d'exportation, pour le soja et ses dérivés, mais pas pour les autres produits, ils avaient supprimé. C'est que certains craignent qu'effectivement on soit conduit à chercher à taxer les exportations de produits agricoles. C'est probable, c'est possible. Ce qu'ils craignent, c'est un État dans l'État. Il faut parler clairement, c'est un État dans l'État. Et le fait qu'il y ait un autre État qui commencerait à les chatouiller un peu, ça ne leur plaît pas. Et c'est tout simplement l'extrême richesse qui vient de cette rente et qui n'est loin d'être partagée par le bon peuple, si je puis dire. Hein. Et ça, ils craignent parce qu'ils n'ont pas envie de partager. Ça va pas plus loin. Il y a eu déjà les premières bagarres avec lorsqu'il y a eu les retentions, c'est-à-dire les taxes sur ces produits-là. Donc, au début de Kirchner-Christina II,
oui, madame, qui est aujourd'hui vice-présidente,
vice-présidente. Et donc, c'est vraiment un très gros problème. Je crois, à mon opinion, du moins, c'est un très très grand problème. C'est un pays qui est essentiellement agricole, mais il a aussi une petite industrie. Cette industrie a beaucoup souffert, et y compris l'industrie agricole a beaucoup souffert cet an dernier.
Mais pourquoi est-ce que l'industrie agricole souffre ?
L'industrie agricole souffre parce que, comment dire, le niveau de productivité du travail est extrêmement faible. Je vais vous donner un seul chiffre, un seul, si vous voulez bien. Si la croissance de la productivité du travail était de 4% au Brésil, en Argentine, pardon, et de 3% aux États-Unis, il faudrait 101 ans, Argentine, États-Unis, 101 ans pour que le niveau de productivité du travail en Argentine atteigne celui des États-Unis. Ça vous donne un peu une idée. Le retard dû au sous-investissement, dû à la spéculation, etc. Donc on est dans un pays qui se désertifie, y compris dans ses industries agricoles. Il perd de sa compétitivité et dépend de plus en plus de matières premières, l'exploitation de matières premières. C'est ce que nous appelons le Dutch disease, c'est-à-dire la maladie hollandaise. C'est-à-dire c'est des tendances, tout simplement. Pourquoi voulez-vous, en fin de compte, pourquoi voulez-vous produire lorsqu'on peut obtenir beaucoup plus d'argent par la finance et par la rente sur les produits financiers ? Là, on paye ça maintenant.
Pierre Salama, nous parlons de l'Argentine dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. On va retrouver Pauline Glaise qui nous parle maintenant, toujours depuis Cordoba, au centre du pays, une grande ville argentine, qui nous parle de l'insertion de ce secteur agricole argentin dans le commerce international, dans le commerce mondial. Pauline Glaise.
L'agriculture représente près de la moitié des exportations du pays et une source importante de devises. Les principales productions, le soja, le maïs et le blé. Le soja au cœur de la guerre commerciale sino-américaine, mais l'Argentine en profiterait assez peu, explique Gonzalo Augusto, économiste à la Bourse des céréales de Cordoba.
Cela a provoqué une modification des flux. Les États-Unis ont commencé à vendre plus de soja à l'Union européenne et le Brésil à la Chine. Et ce que l'on voit depuis, c'est une chute des prix sur le marché de Chicago sans pour autant constater une augmentation des prix locaux. Par ailleurs, notre principal produit d'exportation, c'est la farine de soja vers le Vietnam et le sud-est asiatique et l'huile de soja vers l'Inde. Alors nous avons exporté un peu plus de graines de soja non transformées, mais cette guerre n'a pas été très favorable pour nous.
Pékin a pourtant récemment signé un accord pour acheter de la farine de soja à l'Argentine, un accord présenté comme historique par le président sortant Mauricio Macri. Gonzalo Augusto reste, lui, prudent, la Chine important peu de ce produit.
Ahí tenemos lo que sería el centro de comando donde están toda la parte eléctrica y todo el automatismo de la planta.
L'entreprise de Ricardo Gentili traite de trop petites quantités pour viser le marché chinois. Elle exporte plus près, au Chili et en Uruguay. Néanmoins, Ricardo Gentili voit d'un bon œil cet accord.
Je pense que cela va permettre de faire baisser la pression sur certains marchés sur lesquels l'offre de farine de soja argentine est trop importante. Ce qui laisserait les marchés des pays limitrophes pour les plus petites entreprises. Cela serait une opportunité pour l'Argentine d'augmenter sa capacité de production, mais cela dépendra des facilités de crédit pour les investissements.
Quant au prix du soja, les baisses récentes sont pour l'économiste davantage liées à d'autres facteurs que la guerre commerciale. La peste porcine n'y est pas pour rien, l'Asie ayant moins besoin de soja, mais le fléau est aussi une opportunité pour Mario Aguilar Benitez.
Depuis quelques mois, on exporte nos cochons en Chine. Et récemment, nous avons augmenté de 30% notre production pour fournir la Chine.
Mauricio Macri avait annoncé en avril l'ouverture du marché chinois aux exportations de porc argentin.
Pauline Glaise à Cordoba, Pierre Salama, l'Argentine, c'est en train de devenir une dépendance de l'économie chinoise ?
D'abord, c'est un monde sans paysans. C'est un monde sans paysans, j'insiste bien. Tout simplement parce qu'on s'est spécialisé sur le soja. Les petits paysans, dont on a parlé tout à l'heure, préféraient, et c'était plus rentable pour eux, louer leurs terres à tout simplement des producteurs de soja. Et on a eu une hausse des prix très très importante des terres agricoles de ce fait-là. Donc c'est un monde sans paysans, c'est ça qui est c'est un peu dramatique. C'est-à-dire, en gros, les paysans se retrouvent de plus en plus dans, pour utiliser un mot brésilien, dans les favelas, ou
dans les bidonvilles.
Dans les bidonvilles, bien sûr, autour de Buenos Aires, c'est des grandes villes argentines. Ça, je crois que c'est ça la tragédie, si je peux dire. La seconde chose, c'est que, évidemment, c'est un monde maintenant vulnérable, extrêmement vulnérable. Vulnérable parce que sa source principale, à l'heure actuelle, comme il a été souligné dans le reportage, de devises vient du soja. Et beaucoup moins, comme antérieurement, de ce qu'on appelle la manufacture d'origine industrielle, qui entre en crise, plus ou moins, sauf le secteur automobile, encore qu'aujourd'hui il est en crise, et la manufacture d'origine agricole, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire. On est dans un monde maintenant qui dépend de plus en plus du soja. Donc de quoi ?
Le monde argentin, vous.
Le monde argentin. Oui. Donc de quoi ? Il dépend de ce qui se passe par exemple en Chine. On l'a dit clairement, il suffit que la croissance chinoise baisse et que les Chinois consomment davantage de mains de poulet que de vaches pour que ça chute. Qu'on utilise davantage de sorgho à la place de soja pour que la demande de soja chute et les prix avec. Et quand on parle des cours des matières premières, c'est pas ça seulement qui est important, c'est aussi les volumes vendus. C'est l'ensemble prix-volume qui fait qu'il y a de l'argent qui rentre en quantité suffisante ou en quantité insuffisante. Ce qui s'est passé ces derniers temps, plus la sécheresse, c'est que ça a baissé. Et vous n'avez aucun contrôle contre ça. Aucun contrôle. Et c'est même plus un problème de compétitivité puisque ça se vend en dollars. Donc c'est pas. Mais vous avez strictement aucun contrôle contre ça.
Aucune maîtrise de.
Aucune. Vous pouvez rien contrôler. C'est pas comme si vous produisez des voitures où là vous dites il faut être compétitif. Là c'est même plus le problème. Le problème c'est qu'est-ce qui se passe sur les cours mondiaux. Quand un pays dépend que de ça et qui n'a plus une industrie pour le satisfaire, y compris l'industrie agroalimentaire qui rentre en crise, alors là, il y a un problème. Il y a un problème, et c'est le retour du stock and go. Et c'est tout simplement que, encore une fois, si je suis argentin argenté, je préfère mettre mon argent dans l'immobilier, dans les taux d'intérêt, ou, bien sûr, aux États-Unis, plutôt que de me lancer dans une production quelconque, de faire de l'argent en exploitant tout simplement le travailleur, si je puis dire.
Vous parlez de la désindustrialisation de l'Argentine, parce que ça a été un pays industriel ?
Ah, ça a été une puissance industrielle. Ça n'a pas été un pays industriel, ça a été une puissance industrielle. Elle a encore un tissu industriel avec quelques fleurons qui est déjà consistant.
Lesquels ?
Téchine, par exemple. Téchine, c'est la sidérurgie, c'est quelque chose d'assez important. Mais c'est un pays qui a la particularité par rapport à d'autres pays de ne pas avoir connu depuis 20 ans une désindustrialisation qui se serait accélérée ces dernières années, mais des phases de désindustrialisation et des phases, à l'époque surtout de Kirchner, Nestor, plus...
Donc dans les années 2000.
Dans les années 2000, après la grande crise des années 2000, avec Nestor Kirchner et avec le premier mandat de Cristina Kirchner, une phase de réindustrialisation. Et elle a été massive, elle a été importante. Mais depuis, disons, Kirchner 2, Cristina Kirchner 2,
C'est-à-dire juste avant Macri. Hein,
donc. Oui, quelques années avant la crise, etc.
Avant l'arrivée au pouvoir de Mauricio Macri.
Donc elle
Macri.
Tenait par. Elle
Il y a 5-6 ans.
Elle tenait par les. Comment ça s'appelle ? Alors qu'elle avait des problèmes pour le traitement de sa dette, comme vous le savez, mais elle tenait par le fait qu'il y avait les excédents qui venaient des matières premières qui compensaient les déficits de la balance commerciale. Depuis 2006-2007, la balance commerciale de produits industriels est négative dans ce pays. Mais elle a été positive.
C'est-à-dire qu'ils importent plus qu'ils n'exportent.
Voilà.
La crise en Argentine, Pierre Salama, vous nous l'avez déjà dit, elle ne date pas d'hier. Au fil des décennies, la rédaction de RFI a couvert ces événements, ce qui nous permet aujourd'hui, grâce à des archives sonores, de remonter dans le temps. On commence en 1996 avec ce premier reportage signé Annie Gasnier, qui était notre correspondante régionale à l'époque.
En ce début de printemps austral, le temps était maussade à Buenos Aires, à l'unisson du moral des Argentins, accablés par la profonde crise que traverse leur pays. La récession est là depuis 3 ans et s'approfondit au fil des mauvais résultats de la consommation, des recettes fiscales ou du déficit budgétaire. La nation est hantée par un nouvel indice, celui du risque pays, calculé par un institut américain pour déterminer les taux d'intérêt. L'indice bat des records. L'Argentine est en deuxième position, juste derrière le Nigeria. Le dépit des Argentins est bien résumé par un chiste, une plaisanterie qui circule à Buenos Aires. Si vous mettez sur un bateau les politiciens, les syndicalistes, les militaires et les évêques argentins et que le bateau coule, qui est sauvé ? L'Argentine, bien sûr.
5 ans plus tard, fin 2001, le niveau de vie des Argentins ne va pas beaucoup mieux. Écoutez ce témoignage recueilli par Annie Gasnier de retour à Buenos Aires.
En ce moment, en Argentine, il y a beaucoup de misère. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Et justement, on va passer Noël, pas comme toutes les années. On va le passer, disons, à la maison, avec très peu de choses. On ne peut pas acheter de tout. Et puis, il y a eu un problème avec l'affaire de l'économie qui n'ont pas laissé sortir tout le salaire. Et tout ça, ça influe, disons, sur les achats, sur ce qu'on devrait acheter, non ? Ça va être un Noël un petit peu triste.
Une année a passé et dans les hautes sphères de l'État argentin, les relations avec le FMI sont au cœur des préoccupations. Écoutez ce que dit le ministre emblématique de l'économie de l'époque, Roberto Lavagna, au micro de Mauricio Latorre.
Sans l'appui du Fonds monétaire, tout seul. Et en payant 4,3 milliards de dollars, on a réduit la dette avec les organismes multilatéraux, on était capable de commencer à sortir. Imaginez-vous combien plus facile ça pourrait être si on obtient cet accord avec le Fonds monétaire. Tout au long de l'histoire de l'Argentine avec le Fonds monétaire international, nous, on a signé 19 accords, dont 15 n'ont pas fonctionné. D'un côté... Je crois du côté argentin de dire « bon, ça va, il faut signer même si les conditions sont difficiles ». Et de l'autre côté, les fonds monétaires, d'essayer toujours d'obtenir quelque chose en plus. Eh bien, cette fois-ci, on a dit « nous, on ne va pas signer un accord qui d'ici 3 mois ne sera pas possible d'être défendu ». Par exemple, le Fonds monétaire disait il faut augmenter les tarifs publics 30%. Eh bien, c'est inutile, on ne va pas signer 30%. Parce que, du point de vue politique, du point de vue social et du point de vue économique, ça serait désastreux.
Trois ans plus tard, le président Néstor Kirchner impute au système économique international les problèmes de l'Argentine.
Nous continuons d'être affectés autant par la vision archaïque du thème de la dette que par un système de commerce international injuste pour nos produits agricoles. Les subventions et les mesures protectionnistes des pays développés continuent d'empêcher que nos pays puissent se développer pleinement grâce à nos produits spécifiques.
C'était donc le président Néstor Kirchner. Pierre Salama, cette plongée dans l'histoire de l'économie argentine, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qu'elle nous dit de ces va-et-vient de l'économie argentine? Dans un texte que vous m'avez envoyé en amont de cette émission, dont vous êtes l'auteur, vous parlez d'un pays en décadence quasiment.
Oui, absolument. C'est un pays en décadence, en dérive, si vous préférez, pour utiliser pas
un mot moins moral.
Moins moral, moins péjoratif. Oui, en dérive. Ça, mais c'est pas de cette année que ça existe. Ça s'est précipité encore une fois. La politique qui a été suivie par Macri a consisté à contenir la demande, la réduire. Et évidemment, dans un pays qui a une économie relativement fermée, ça signifie, surtout si le contexte international n'est pas bon non plus, ça signifie tout simplement qu'on précipite la crise.
Mais revenons à cette histoire. En 2001, qu'est-ce qui s'est passé? On parle de la grande crise de 2001 concernant l'Argentine, et on dit aujourd'hui, la situation argentine est très difficile, mais elle est quand même pas aussi terrible qu'elle l'était en 2001. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2001?
En 2001, comme vous l'avez souligné dans le reportage, la crise avait commencé d'abord en 97-98, et en 2001, elle a éclaté. C'était horrible, et on est passé à plus de 50% de taux de pauvreté.
C'est encore pire qu'aujourd'hui, non ?
Bien pire qu'aujourd'hui. Là, mois sur mois, on a eu jusqu'à moins 10% de baisse du PIB. Je dis bien moins 10%. En France, quand on en passe de 1,5 à 1, on dit que c'est une crise. Là-bas, quand on descend en dessous de 0, ça a une autre signification, ça a un autre sens. Les données, là, prennent de la chair, si je puis dire. Hein. Donc, c'est l'explosion de la pauvreté. J'étais là-bas pour en Argentine à cette époque-là. Et je veux vous assurer, on le voyait dans la rue. C'était vraiment horrible. Ce qui est arrivé, c'est que il y a eu une profonde dévaluation. On a abandonné le plan de convertibilité. Il y a eu des politiques économiques qui ont été menées et qui ont permis une récupération assez rapide, et avec Néstor Kirchner, entre autres, et notamment il y a eu ce traitement de la dette que longtemps l'Argentine a payé, qu'on lui a fait payer très très cher, qui a consisté à dire on arrête de payer pour les créanciers privés, pas pour les créanciers publics, on arrête de payer au tarif qui est exigé. Ce qui est arrivé, c'est que l'Argentine a desserré, elle a été pendant 7 ans, elle a été le pays d'Amérique latine qui a eu la croissance la plus élevée.
De quand à quand?
De à peu près 2003 jusqu'à peu près 2010. 2010, 2011, ça commence à se dégrader en 2011, etc. Mais c'est quand même quelque chose de remarquable. C'est-à-dire, c'est là où il y a eu une réindustrialisation. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas fait les réformes structurelles qu'il fallait. C'est-à-dire, c'est pas seulement les augmentations de salaire, c'était une réforme fiscale, par exemple. Il n'y a pas eu les réformes fiscales qu'il fallait. On a augmenté les impôts, mais il n'y a pas eu des réformes fiscales.
Mais qu'est-ce que vous appelez réforme fiscale? Faire plus payer, par exemple, à l'agro-business?
Avec un contrôle supérieur. Mais il y a des données montrées par la Commission économique pour l'Amérique latine, la CEPAL, qui ont montré que avant,
qui est dépendance des Nations Unies, faut préciser, qui est basée à Santiago du Chili.
Voilà. Qui ont montré la chose suivante, pour le Brésil, pour l'Argentine, que avant impôts et transferts sociaux, sur une échelle de 1 à 100, les inégalités diminuent seulement de 2 points par rapport à après impôts et transferts sociaux. 2 points. En France, c'est 15 points. Ça veut dire que le système fiscal n'est pas du tout progressif, il est régressif. C'est-à-dire que plus vous êtes riche,
moins
vous payez d'impôts, mais beaucoup plus qu'en France. C'est-à-dire la différence est beaucoup plus prononcée qu'en France. Eh bien, ça, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de réforme fiscale à ce niveau-là. Et je le regrette parce que c'était le moment ou jamais. Mais c'était le moment aussi des aises financières. On a eu le même problème au Brésil. C'est un moment des aises financières. Pourquoi se poser des problèmes avec des puissants alors qu'on a l'argent pour importer, etc. Donc on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, entre autres, on le paye. Cette facilité de ne pas avoir pris des mesures structurelles qu'il fallait à ce moment-là prendre. Créer une banque, par exemple, de développement, comme ça existait pendant tout un temps au Brésil, c'était très important pour contrer ou pour faciliter les processus de réindustrialisation. Ce pays dépense 0,6 points du PIB pour la recherche. En France, on dépense 2,3, 2,4, et on trouve que c'est largement insuffisant, ce qui est vrai. Mais alors 0,6%, ça veut dire que face...
0,6% de la richesse nationale.
Voilà. Que face à la révolution industrielle qui est en train de se passer, l'Argentine passe complètement à côté. Elle passe complètement à côté, ça veut dire qu'elle est de plus en plus vulnérable, dépendante de tout ce qui se fait aux États-Unis, en Corée du Sud, en Chine, etc., en matière de nouvelles technologies. Elle est incapable de suivre.
Pourtant, Pierre Salama, l'image qu'on a souvent de l'Argentine, c'est un pays où la classe intellectuelle est nombreuse, très bien formée, absolument, avec de grands écrivains, des juristes, des scientifiques, une classe éduquée très nombreuse. Ça n'est plus le cas ?
Non, c'est encore le cas parce qu'elle a de beaux restes. Vous avez entendu Lavagna qui parlait très bien français, par exemple. Ouais. C'est ça de beaux restes. Mais c'est les personnes âgées qui parlent très très bien français. C'est ça encore de beaux restes, si vous le comparez à d'autres pays. Mais ça me nuise de plus en plus. Et ça, je crois que c'est, à mon avis, très très grave. C'était le pays quand même le plus riche d'Amérique latine il n'y a pas encore très très longtemps. Jusqu'il y a 4-5 ans, c'est celui dont le PIB par tête...
Dans le produit intérieur brut,
ouais. Oui, par tête. Le revenu, si vous voulez, par tête, ouais, était le plus élevé d'Amérique latine encore, bien qu'il soit en décadence ou en dérive. Et là, maintenant, on est dans une situation de plus en plus atroce.
Mais si on remonte encore plus loin, quasiment au début du XXe siècle, c'était un pays riche.
En 1930, c'était le quatrième pays dont au niveau du PIB par tête, le quatrième pays du monde. Si vous prenez l'exemple, quand on fait des comparaisons avec la Grande-Bretagne, quand on fait des comparaisons avec l'Espagne, on se rend compte, par exemple, l'Espagne, c'était 4 fois, en 1930, 4 fois le PIB par tête, 4 fois, hein, de l'Espagne. Là, c'est 53%.
La moitié.
Ouais. Donc ça vous montre un peu une idée. C'est une chute aux enfers qui est extrêmement rapide, mais qui est aussi très volatile, avec des phases hautes, etc., et des phases basses. Malheureusement, très souvent, avec une fuite des cerveaux.
Pierre Salama, bon, vous n'êtes plus un jeune homme, c'est pas une insulte que de vous le dire. Vous fréquentez l'Argentine depuis des décennies.
Oui.
Vous devez avoir des amis, des gens que vous voyez régulièrement quand vous y allez. Comment est-ce que vous avez vu évoluer leur niveau de vie, à ses amis, à ses proches ?
On parlait tout à l'heure du début des années 2000 avec l'explosion du plan de convertibilité qui avait été instauré par Menem et applaudi par le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international considérait que l'Argentine était le meilleur élève du Fonds monétaire international. Vous imaginez avec ce qui arrivait ensuite, la responsabilité. Moi, j'ai vu des amis qui avaient des appartements et qui ne pouvaient plus payer l'électricité. Certains d'entre eux ont quitté leur appartement parce qu'il n'y a ni eau ni électricité. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux vus, comme on dit. J'ai vu des gens qui avaient des difficultés pour survivre, tout simplement. Des gens qui cherchaient à s'expatrier. Il y a eu des mouvements vers les États-Unis, etc. Donc, on n'en est pas là aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on en est là encore aujourd'hui, mais en 2000, au début des années 2000, ça a été, de ce point de vue, une catastrophe. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, si les classes moyennes s'en vont, les classes moyennes supérieures s'en vont, restent qui ? Restent les pauvres. Et les pauvres payent, y compris par le départ des classes moyennes hautes.
Pierre Salama, nous parlons de l'Argentine, de l'économie argentine dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. De l'autre côté du Rio de la Plata, donc qui est le grand fleuve argentin, coincé entre les géants argentins et brésiliens, l'Uruguay et ses 3,5 millions d'habitants subissent aussi les répercussions de la crise argentine. C'est particulièrement le cas pour le secteur du tourisme. Les touristes argentins, c'est traditionnellement plus de 60% des visiteurs en Uruguay. Avec la crise argentine, ce flux a diminué d'un quart par rapport à l'an passé. On annonce 25% moins. À l'écoute de l'inquiétude des Uruguayens, Colonia del Sacramento, ville touristique et point de passage important entre l'Uruguay et l'Argentine, c'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Théo Conscience.
À seulement une heure de bateau de Buenos Aires, Colonia del Sacramento est un port calme à la sérénité bien uruguayenne. Mais en ce début d'été austral, les ruelles pavées sont étrangement vides et l'ambiance est morose.
Cette saison est assez compliquée. Les problèmes en Argentine ont beaucoup d'impact et la fréquentation est en baisse. Quand ils vont mal, cela nous complique les choses.
Graciela Pérez travaille à la Posada del Angel. Dans cet hôtel aux murs recouverts de plantes grimpantes, la fréquentation est en baisse de 30%. Pourtant, pour inciter les Argentins à venir malgré la crise, le gouvernement uruguayen a annoncé début octobre une série de mesures exceptionnelles, dont l'exonération de la TVA sur certains services.
Sur l'essence, ils nous ont fait une réduction. Nous en avons aussi eu une sur notre logement ici à Colonia et dans certains restaurants. Nous avons payé par carte bancaire, parce que si on paye en liquide, il n'y a pas de réduction.
Rolando et Daniela Barrios et leur fils Lorenzo, endormis dans sa poussette, font partie des rares touristes argentins que l'on croise dans les rues de Colonia. Ils se sont laissés convaincre, mais font attention à leurs dépenses.
Nous sommes dans un logement assez bien équipé, donc on fait les courses au supermarché, on évite de trop sortir pour déjeuner ou pour dîner dehors, on essaye d'économiser sur cet aspect-là.
Un comportement économe dû à un taux de change défavorable entre les pesos uruguayens et argentins, de l'ordre du simple au double. Pour y remédier, Santiago Vicha, loueur de vélo, accepte les pesos argentins. Mais malgré ça, sa boutique reste vide et il tue le temps en regardant la télévision.
No viene con dinero.
Les touristes ne viennent pas avec de l'argent à dépenser. Ils vont au supermarché, s'achètent de l'eau, du pain, de la charcuterie et du fromage. Ils vont au parc ou à la plage. Mais ils ne viennent pas pour dépenser comme avant. Un jour comme celui-ci, l'année dernière, je louais 20 bicyclettes. Aujourd'hui, j'en ai loué une seule pour une heure.
Hoy saqué una por una hora.
Fin octobre, la Banque Centrale Argentine a annoncé de nouvelles restrictions sur l'achat de dollars pour ménager ses réserves. Les Argentins ne peuvent acheter que 200 dollars par mois. Une mesure qualifiée de coup de grâce par l'élu en charge du tourisme dans le département de Colonia, Cristina Otero.
Évidemment, la situation en Argentine va nous affecter comme le reste de l'Uruguay. Pour Colonia, le tourisme est une des sources d'emploi les plus importantes. Les services occupent la première place en termes de revenus pour le PIB du département.
Depuis la crise argentine de 2001, l'Uruguay a essayé de rendre son économie plus résiliente aux chocs que subissent celles de ses voisins. Mais des porosités subsistent et selon différents experts, la crise argentine devrait coûter environ 0,3 points de PIB à l'Uruguay cette année.
Un reportage signé Théo Conscience, donc en Uruguay. L'Uruguay, c'est une province argentine en quelque sorte.
Non,
faut pas exagérer.
Non, nous n'exagérons rien, mais c'est vrai que c'est...
On demande pardon aux Uruguayens qui nous écoutent.
Non, il ne faut pas exagérer. On dit aussi, bien sûr, que Montevideo, c'est un petit Buenos Aires. Mais ce que tu dis pour Colonia, c'est un effet du taux de change. Ça, c'est sûr. Et l'effet aussi des restrictions. Aujourd'hui, c'est 200 dollars. Mais il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, c'était 10 000 dollars par mois qu'ils avaient le droit de tirer. Vous voyez, ce qu'on a raconté un peu la bicyclette financière et surtout le colchon, c'était le matelas, on met l'argent dans le matelas. Là, c'est vrai que les Argentins sont moins tentés d'aller ailleurs. Ça coûte très cher. Les classes moyennes, ceux qui ont beaucoup d'argent et ceux qui l'ont mis, notamment à Montevideo, dans les banques uruguayennes, eux ont gagné beaucoup d'argent. Et très souvent, l'Uruguay a été la Suisse de l'Argentine. Donc, il faut bien distinguer si c'est le tourisme des classes moyennes, c'est vrai.
Ce qu'on a entendu, c'est le tourisme des classes moyennes.
Les classes moyennes.
Qui font attention à chaque centime.
Si c'est ceux qui ont le plus d'argent, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils aient de très gros problèmes. C'est le problème, tout simplement, du taux de change. Je me souviens que, quand j'ai connu des périodes à peu près semblables, pour nous, Français, c'était merveilleux d'aller en Argentine ou au Brésil quand ça dévaluait très fort. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait acheter des paires de chaussures, acheter tout ce que vous voulez pour quasiment rien. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse pour eux. C'est favorable pour moi, si je voulais acheter quelque chose aujourd'hui en Argentine. Ceci dit, je voudrais dire quand même certaines choses. C'est que à l'heure actuelle, si on a quelques minutes sur les politiques de sortie qui sont en négociation à l'heure actuelle, il y a d'abord une discussion avec l'industrie pour l'augmentation des salaires.
C'est-à-dire
l'industrie accepte de payer des salaires, d'augmenter les salaires, de faire des rattrapages par rapport aux pertes d'achat qui sont depuis un an et demi, deux ans, dans le secteur industriel.
C'est le gouvernement Macri sortant.
Non, c'est Fernandez.
C'est Fernandez qui arrive au pouvoir le 10 décembre.
Qui négocie déjà. Et la baisse dans les emplois formels. L'informalité, c'est 50% de la population, c'est pire. Mais dans les emplois formels, la baisse est de au moins 20%, calculée à peu près à 20%. C'est quand même considérable.
La baisse de quoi ? Des salaires ?
Des salaires réels, ouais. C'est-à-dire les salaires nominaux ont augmenté moins que que l'inflation. Et surtout pour les catégories les plus vulnérables, a encore beaucoup moins augmenté, les salaires réels ont beaucoup moins augmenté. Donc ça, c'est une moyenne, 20%. Donc il y a des négociations pour augmenter. Il y a, semble-t-il, des accords qui sont en train de se dessiner. C'est-à-dire faire la politique inverse de celle de Macri. Et c'est vrai que c'est possible. C'est possible si demain aussi on accompagne cela de recherche d'augmentation de la productivité pour retrouver une certaine compétitivité.
Oui, mais
c'est possible.
Est-ce que l'industrie argentine... D'ailleurs, vous ne nous avez pas expliqué en détail en quoi elle consistait.
Le gros des exportations industrielles, argentines, industrielles, c'est la voiture. C'est l'industrie automobile, vis-à-vis notamment du Brésil, qui est lui aussi en crise, ça pose un problème aussi, ça. Donc ça, c'est quand même le secteur dynamique, si vous voulez, à l'heure actuelle. Après, vous avez toute une série de moyennes entreprises, plus la sidérurgie, etc., qui sont quand même des secteurs assez performants.
Mais est-ce que ces entreprises ont les moyens d'augmenter les salaires ?
Oui, je pense qu'ils l'ont. Oui, bien sûr. Parce que c'est une économie fermée. La compétitivité joue. S'il y a une dévaluation, qu'est-ce qui fait la compétitivité dans une certaine mesure ? C'est le salaire, c'est le taux de change et c'est la productivité du travail. La productivité du travail augmente peu pour l'instant, mais il y a peut-être des possibilités de l'augmenter. Les salaires ont baissé et le taux de change a été dévalué. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités d'exporter. Donc ça compenserait en partie l'augmentation de ces salaires. De toute façon, c'est la seule voie. C'est la seule voie. Sinon, il va avoir une révolte populaire contre lui. Et la deuxième qu'il cherche à l'heure actuelle, c'est de diversifier...
La deuxième solution.
Deuxième piste. Piste, si vous voulez, mais qui accompagne la première, c'est de ne pas dépendre seulement du soja. Et c'est en train de renégocier. Alors ça va poser des problèmes. Il est en train de renégocier pour le gaz de schiste, pour développer très rapidement le gaz de schiste avec tous les problèmes que cela peut poser, du point de vue écologique et également du point de vue des territoires où sont dominants les Indiens. Et également le lithium. Donc là, il y a quelques richesses naturelles qui existent, si vous voulez, qui cherchent à exploiter, mais au détriment probablement de problèmes d'environnement. Et pas d'environnement seulement naturel, mais environnement, les gens. Donc ça, je crois que ça va probablement poser problème, mais c'est aussi significatif de ce que le gouvernement se considère comme une, disons, prise à la gorge, si je puis dire, et que c'est la seule manière.
Encore une fois, la contradiction qu'on a déjà abordée dans d'autres émissions, d'autres écodiciers que d'ailleurs, entre le développement économique et le souci de préservation de l'environnement.
C'est exact, mais c'est pire que ça. C'est pas le développement économique et le souci d'eux, c'est comment sortir de la crise. Comment sortir de la crise ?
Comment survivre ?
Exactement, ce n'est pas le développement, c'est comment sortir aujourd'hui de la crise. Et pas sortir de manière conjoncturelle simplement, parce que ça je pense qu'ils peuvent y arriver, mais aussi également en essayant de sortir pour le futur, c'est-à-dire de s'inscrire dans un autre chemin que celui qui a été suivi jusqu'à présent. Ça passe par des mesures structurelles. Probablement parce qu'il est centriste, il peut y arriver. Et aussi, probablement aussi parce que, je crois que Christina Kirchner n'a pas envie de recommencer les expériences des deux dernières années de son deuxième mandat.
C'était assez secoué, accusé de beaucoup de méfaits, de malversations.
Ah, de corruption, etc. Ça, certainement. Mais je parlais plutôt au niveau de la politique économique, qui a été une politique de plus en plus réglementaire. C'est-à-dire, en développer la réglementation in fine.
Une économie administrée.
Administrée, voilà.
Est-ce que, ça va être le mot de la fin, Pierre Salama, est-ce qu'il y a un peu d'optimisme pour l'économie argentine de votre part?
Parce que je crois que nous sommes à la fin d'une période, qui est la période, disons, où le vent soufflait à droite et avait renversé toute une série de gouvernements populistes progressistes. Je crois qu'avec ce qui se passe au Chili, ce qui s'est passé dans une certaine mesure au Mexique, même si c'est très centriste, si je puis dire, ce qui se passe en Argentine aujourd'hui, je crois qu'on est à la veille d'un mouvement différent de contestation des politiques libérales qui ont été menées jusqu'à présent. Et ça, je crois que ça peut aider, ça peut être une chance pour l'Argentine de se renforcer et de trouver la légitimité pour entreprendre des mesures absolument nécessaires.
Eh bien, j'espère que la prochaine fois que vous viendrez à ce micro, Pierre Salama, ça sera pour nous donner de bonnes nouvelles. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir fait partager un peu de votre savoir sur ce pays latino-américain. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.rfi.fr ou nous réécouter, nous podcaster sur l'application Pure Radio de votre smartphone. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Géopolitique.